Radio Okapi. Okapi. Okapi service avec Tati Mapoko. Okapi.
Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Quelle est l'importance de la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire? Nous débattons de ce sujet avec Yvon Idoumou. Il est chef de la section de l'information publique du Bureau de coordination des affaires humanitaires au Tchansigle, à qui nous disons bonjour.
Bonjour Tati.
Soyez les bienvenus chez nous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Comme deuxième invité, nous avons Madame Clémence Caro-Pelletan. Elle est directrice du Forum des ONG internationales en RDC. Elle est notre deuxième invitée. Bonjour Madame Clémence.
Bonjour Tati.
Bienvenue dans ce magazine. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081 890 63 94 et nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. C'est aussi possible de laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ce magazine. Jean-Marc Matoua qui s'occupe de la coordination. Christelle Fritti réalise cette émission et Jean-Claude Tiala s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute d'Okapi Service.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Bienvenue dans Okapi Service, votre magazine de la vie au quotidien. Le 19 août de chaque année est consacré à la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Pour cette édition, le thème de la Journée mondiale de l'aide humanitaire permet de rassembler les partenaires de l'ensemble du monde humanitaire afin de promouvoir la survie, le bien-être et la dignité des personnes affectées par les crises, ainsi que la sûreté et la sécurité des travailleurs humanitaires. Quelle est l'importance de la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire? Nous en parlons avec nos deux invités, monsieur Yvon, dites-nous, on va commencer, qu'est-ce qui a incité l'ONU à dédier toute une journée mondiale de l'aide humanitaire?
Merci, merci Tati et bonjour aux auditeurs d'Okapi à Kinshasa et partout dans le monde. La journée mondiale de l'aide humanitaire est née en fait d'un triste événement qui a eu lieu en 2003 en Irak, à Bagdad. Lorsque l'ONU a perdu plus d'une vingtaine de collègues dans un bombardement, y compris le secrétaire général, le représentant du secrétaire général à l'époque, Monsieur Sergio Vieira de Mello. Et donc après cet accident en 2003, cinq ans plus tard, il y a une résolution qui a été votée, qui instituait le 19 août, qui était la date de l'accident, comme journée mondiale de l'aide humanitaire. Et la journée a été commémorée pour la première fois en 2009. Donc ça fait seulement 13 ans que nous commémorons cette journée, qui est voilà en mémoire de collègues humanitaires qui sont décédés, mais évidemment aussi de tous ceux qui sont encore vivants et qui continuent à travailler. à travers le monde, ici en RDC, en Afrique, voilà, à travers le monde.
Madame Clémence, je rappelle que vous êtes directrice du Forum des ONG internationales ici en RDC. Est-ce que pouvez-vous nous faire une idée sur ce qu'on entend par aide humanitaire?
Oui, merci Tati. Et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. L'aide humanitaire, c'est en fin de compte une réponse aux crises et aux urgences qui peuvent avoir lieu dans une région ou dans un pays. C'est différent de besoins qui seraient structurels et qui seraient plus liés à de l'aide au développement. Et donc du coup, on appelle aide humanitaire vraiment tout ce qui est de l'urgence et voilà. Répondre et sauver des vies.
Un petit complément d'information sur ces concepts.
Oui, je pense qu'il y a aussi c'est l'idée d'urgence. Comme un de nos anciens patrons à Ocha disait, nous sommes des urgentistes. Donc nous venons à des situations imprévues, répondre à des. Ça peut être des catastrophes naturelles, ça peut être des incidents liés à des conflits armés. Mais voilà, c'est vraiment de la réponse rapide. Pour sauver des vies sur une durée assez brève et assez courte.
Clémence, dites-nous ici en RDC, hein, quelles sont les actions que les acteurs humanitaires réalisent au bénéfice de la population vulnérable? Je rappelle que vous êtes vous regroupez une affaire de 170 ONG internationales qui travaillent ici en RDC.
Oui, 117 ONG, 117. C'est un peu moins.
Mais okay.
on va dire que les réponses aux crises, on les divise en différents types de secteurs qui permettent aussi de pouvoir avoir une connaissance technique et vraiment bien répondre aux besoins. En général, quand on parle de secteurs, on parle de l'assistance sur de l'eau, accès à l'eau, à l'hygiène, à l'assainissement, accès à de la santé, accès à de l'éducation en urgence, accès à des soins en nutrition ou bien à de la sécurité alimentaire. Donc c'est voilà, il y a également les abris, il y a d'autres types de réponses, mais l'idée voilà, c'est qu'on a une large palette de réponses.
Monsieur Yvon, lorsque vous descendez sur terrain, quel est le constat qui se dégage dans les actions que vous menez?
Ben, c'est un constat premièrement, il faut dire que le travail qui est fait avec de nombreuses ONG nationales et internationales et on ne le dit pas assez, mais en fait, il y a beaucoup plus d'ONG congolaises dans la réponse humanitaire qu'il y a d'ONG internationales ou encore moins d'agences des Nations Unies. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut noter, c'est comme notre métier le demande, et comme Clément le disait, c'est vraiment des besoins primaires. Peut-être des besoins que ceux qui ne sont pas en situation de détresse pourraient prendre pour acquis, mais comme elle dit, on parle de l'eau, de la nourriture, accès aux toilettes, permettre aux enfants de continuer autant que possible leur éducation, leur donner des espaces, ce qu'on appelle des espaces d'enfants où ils peuvent voilà s'amuser, grandir.
Des espaces ludiques.
Exactement. Donc c'est toute une palette d'activités qui est déployée selon la spécificité de l'organisation, de l'agence ou de l'ONG.
Ok. Madame Clémence, sur terrain également, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de défis aussi à relever. Est-ce qu'on peut avoir une idée des actions que mènent les ONG internationales ici en RDC?
Oui, enfin, disons qu'on met en œuvre des projets, surtout, voilà, ça peut être de la réponse rapide, ça peut être aussi des questions de, comme je disais, sur la nourriture, etc. Mais je dirais que en termes de challenge, comme vous le mentionnez, le plus grand challenge, c'est la question de l'accès, avoir accès aux populations, s'assurer que les populations elles-mêmes puissent avoir accès aux services et aux activités ou aux réponses des humanitaires. Souvent, on est dans des zones qui sont difficiles en termes de sécurité, exactement, en termes physiques également. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est toujours une question de pouvoir aller là où sont les besoins, tout aussi en s'assurant que voilà la sécurité des personnes que l'on aide ainsi que la sécurité de nos collègues est assurée.
Ok. Monsieur Yvon, dites-nous, quels sont les défis majeurs, hein, les défis majeurs que les humanitaires rencontrent du côté de partenaires et de la population qui bénéficie au fait de vos actions sur terrain?
Ben, je vais compléter ce que Clémence en dit. C'est vraiment la question d'accès et qui se fait dans les deux sens. L'accès des acteurs humanitaires vers les populations et la capacité des populations à pouvoir venir vers nous. Ça, c'est un premier défi. Un second défi est lié à notre capacité de pouvoir apporter toute l'aide que nous voulons apporter sur la base des financements que nous pouvons recevoir. Nous travaillons sur, évidemment, toutes les organisations ont leur budget, mais nous recevons des financements, nous avons besoin de financements pour pouvoir apporter de l'aide, et notre capacité à pouvoir répondre plus ou moins est fortement tributaire de ce que nous recevons durant l'année.
Mmh. Et le budget en fonction de besoin, ou le budget il est défini au début de l'année?
Donc, effectivement, il est défini en début d'année, et chaque année nous faisons ce qu'on appelle un appel de fonds. Le mot technique, c'est le plan de réponse humanitaire, mais en fait c'est un appel de fonds dans lequel nous disons à l'État congolais, aux donateurs étrangers, voici ce dont nous avons besoin pour pouvoir apporter de l'aide à X nombre de personnes. Mmh. Juste pour l'année 2022, on a un budget qui se situe à près de 1,9 milliard de dollars pour assister à peu près 8,8 millions de personnes. Donc cet appel de fonds est fait en janvier, donc ce n'est pas de l'argent que nous avons. Je pense qu'il est important de le préciser.
C'est de l'argent à mobiliser.
C'est de l'argent à mobiliser.
Auprès des partenaires.
Exactement. C'est vraiment de l'argent à mobiliser. Mais en entendant la mobilisation, le travail se fait. C'est pas comme si on attend d'avoir tous les 1 milliard et puis voilà. Donc on mobilise, mais en même temps, parce qu'on a des budgets internes, parce qu'on a souvent des reliquats de l'année intérieure, voilà, on est quand même en mesure de travailler tout en mobilisant les fonds.
Oui, Madame Clémence, aujourd'hui, on est en train de commémorer, au fait, la journée mondiale de l'aide humanitaire. C'est un travail aussi difficile hein, pour vous, les acteurs qui œuvrent dans le secteur.
Oui, c'est un travail qui est difficile. Après, on est auprès des populations et je pense que la situation est particulièrement difficile pour la population et pour les bénéficiaires de l'aide humanitaire en premier lieu. Mmh. Et c'est vrai que nos collègues vivent avec.
Ils font avec.
Exactement. Et ils rencontrent les mêmes types de difficultés et donc du coup voilà, l'important c'est le travail vraiment avec les communautés et les populations que l'on aide.
Yvan, un commentaire?
Non, effectivement, mais je pense que dans le travail que nous faisons, on met d'abord les populations que nous assistons en premier. Oui, certes, c'est difficile pour nous, mais c'est en fait beaucoup plus difficile pour elles. Et ça c'est le plus important. Je pense aussi qu'un autre point qu'il est important de porter à la connaissance des auditeurs, c'est que lorsqu'il y a une crise, lorsqu'il y a un besoin humanitaire, en tout cas pour ce qui est de la RDC, le constat est que les populations congolaises sont en fait les premières à porter secours. Parce que nombreuses d'entre elles ouvrent leur cœur et leur toit à ces populations qui sont en détresse, et donc elles constituent une première ligne de réponse. Ça c'est important de souligner, parce qu'on a peut-être l'impression que c'est les ONG ou les Nations Unies qui font tout le travail. Non, il y a quand même un premier travail qui est fait par ces populations, ces familles d'accueil, c'est ce qu'on appelle dans le jargon, ces familles d'accueil qui acceptent des compatriotes. Ça peut être des parents, mais très souvent c'est souvent des gens qu'on ne connaît pas, qui ne connaissent pas, et qui c'est juste qui font parler leur cœur et leur humanité en fait.
Clémence, vous voulez
peut-être rebondir sur la question dont on parlait tout à l'heure sur les financements et le fait que effectivement on ne remplit pas tout le plan de réponse humanitaire n'est pas du tout financé. Et donc ce que je veux dire derrière, c'est que c'est difficile aussi pour les collègues sur le terrain qui voient énormément de besoins, beaucoup plus de besoins que ce que nous sommes en mesure de répondre. Et parfois c'est très difficile aussi de pouvoir être dans ces situations-là avec les gens et de pouvoir voilà expliquer comment se fait la priorisation et les impliquer dans la priorisation. parce que, en fin de compte, la plupart des gens dans les zones où opèrent les humanitaires ont des besoins, mais nous ne sommes pas en mesure de tous y répondre.
Quelle est l'importance de la commémoration de la journée mondiale de l'aide humanitaire? Nous en parlons dans Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à nous appeler au numéro 081 890 63 94 et nous allons vous rappeler pour prendre la parole en direct.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Okapi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Okapi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Quelle est l'importance de la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire? Nous en parlons dans cette émission Okapi Service. Monsieur Yvan, les besoins d'assistance humanitaire augmentent à l'échelle mondiale. D'une part et d'autre part, les donateurs n'arrivent pas à contribuer à la hauteur des besoins, de la demande, de l'appel à fonds qui est souvent que vous lancez. Et dans ces contextes, comment est-ce que vous arrivez à travailler?
Mais comme je disais tantôt, nous avons chaque agence, chaque organisation a des budgets qui lui permettent de fonctionner, a ses mécanismes internes pour solliciter des fonds. Et donc effectivement, pendant que nous lançons l'appel de fonds qui est lancé en début d'année et que nous continuons à faire le travail de plaidoyer, nous avons des ressources internes qui nous permettent, qui sont malheureusement pas infinies, qui nous permettent de quand même mettre en place nos projets, les différentes activités, en attendant de recevoir de nouveaux financements. Donc voilà, il faut pas, c'est ce qui explique, le fait que on n'est pas en mesure de pouvoir répondre à tous les besoins, parce que même dans le meilleur des scénarios, c'est qu'il y a les besoins sont toujours beaucoup plus nombreux que nos capacités, malgré la bonne volonté, malgré toutes les équipes que nous avons, toute l'expertise que nous avons. Il y a toujours des situations qui nécessitent encore beaucoup plus de besoins, et c'est quasiment impossible de pouvoir répondre à tout en même temps.
Oui, Clémence, dites-nous, avec des ONG locales, quel type de collaboration entretenez-vous?
La plupart des ONG internationales travaillent avec des ONG locales, que ce soit sur du partenariat, dans la mise en œuvre de projets, mais également, on va dire, sur de la coordination des activités, s'assurer qu'il n'y a pas de doublons, qu'on est complémentaire entre tous les acteurs. Bien évidemment, les ONG nationales ont une assise locale qui est extrêmement importante auprès de la communauté et sur laquelle nous travaillons beaucoup, sachant que ONG nationale, après la plupart du staff aussi de nos organisations internationales sont des Congolais et des Congolaises, et donc bien évidemment aussi ils connaissent la situation sur le terrain et ils sont en mesure aussi de pouvoir mieux connaître le contexte et donc répondre de façon appropriée.
Oui, et ces terrains aussi, on nous remonte parfois des informations sur la mégestion des vitres que vous mettez à la disposition de la population vulnérable. Yvon, comment vous faites pour contourner toutes ces contraintes-là?
Juste avant de rentrer dans cette question, je voulais renchérir sur ce que Clémence a dit. En fait, ce dont Clémence parle, c'est aussi la question de localisation. Mmh. C'est-à-dire que c'est un terme un peu jargon, mais l'idée de vraiment impliquer beaucoup plus les ONG, les organisations locales dans l'action humanitaire, ça se passe dans l'action humanitaire, ça se passe aussi dans d'autres domaines. Bon, nous on est dans l'action humanitaire. Et comme je disais tantôt, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup plus d'ONG congolaises dans l'action humanitaire qu'il y a d'agences onusiennes ou d'ONG. Mmh. Même en termes de staffing, vous prenez n'importe quelle agence des Nations Unies ici au Congo ou ONG internationale, le personnel local est très souvent 50% ou voire même plus de agences. Donc ça, c'est vraiment important de le noter. Donc ça veut dire que ce sont, in fine, ce sont des Congolais qui viennent à une certaine mesure en réponse à leurs compatriotes congolais. Alors, pour revenir sur la question de mes gestions, écoutez, moi je pense que aucun système n'est parfait. Mm. Voilà, on a souvent tendance à mettre l'accent sur un ou deux cas de mes gestions et on oublie en fait tout le grand travail qui est bâti sur terrain depuis des années par de nombreuses organisations. Je pense que c'est plutôt sur ça qu'il faut se concentrer. Et quand il y a des cas de mégestion, ben elles sont enquêtées. Les organisations prennent des mesures pour endiguer cela. Donc on ne ferme pas les yeux là-dessus comme si ça n'a pas existé. Non, on est conscient des faiblesses qui peuvent exister dans notre système et tant au niveau des agences onusiennes que des ONG internationales et nationales, des mesures sont prises quand cela est avéré.
Dites-moi Clémence, comment est-ce que vous faites pour sélectionner les ONG locales avec lesquelles vous collaborez? Est-ce qu'il y a des appels d'offres? Vous lancez des appels d'offres? Il y a des ONG locales qui sont déjà affiliées avec les ONG internationales dans les cas d'action que vous réalisez sur terrain?
Alors, ça varie beaucoup d'ONG internationales à ONG internationales. Souvent, certaines ONG internationales vont avoir des liens de par leur structure avec certaines ONG nationales. Je pense par exemple au réseau Caritas qui va avoir des relais au niveau international, mais également au niveau local et national. Il y a également, pour la sélection des partenaires, oui, il y a des appels d'offres, des appels à projets. Il y a également un travail d'identification sur le terrain des ONG nationales qui répondent, qui connaissent le mieux le terrain. Et après, ce qui est important aussi à faire, parce qu'on est on nous demande beaucoup de s'assurer que l'argent est bien utilisé. Ça, c'est nos bailleurs de fonds qui le demandent. Et pour nous, c'est très important, parce que c'est important que la population reçoive ce dont ils ont besoin. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a un certain nombre de standards. Donc, on va aussi regarder comment marche l'organisation à l'interne. Si on voit que ça ne répond pas nécessairement aux demandes des bailleurs, on va travailler aussi avec cette organisation pour peut-être la mettre à niveau, pour renforcer ses capacités.
Oui, mais les acteurs de ce civil disent parfois que vous avez des critères rigoureux.
Tout à fait. C'est tout à fait vrai. Et ces critères rigoureux, c'est pas nécessairement des critères qui sont imposés par les organisations elles-mêmes, mais aussi par les bailleurs de fonds qui nous donnent de l'argent et qui veulent s'assurer que l'argent du contribuable de leur pays, parce que c'est bien ça, puisse arriver aux populations et soit le mieux géré possible. Et donc là, il y a des critères qui sont difficiles, mais je pense qu'on travaille beaucoup en partenariat pour s'assurer que les organisations nationales puissent avoir le niveau pour avoir elles-mêmes accès directement à ces financements.
La réponse de Clémence revient un peu à votre question sur la mégestion. Si aujourd'hui on a des critères rigoureux, c'est parce qu'effectivement on veut s'assurer que le système il est aussi parfait qu'il puisse l'être. Donc c'est aussi une mesure aussi de s'assurer qu'on a les organisations et les personnes qui sont compétentes qui peuvent faire le travail qui est nécessaire et non pas voilà prendre disons des agences ou des organisations qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas le personnel et qui fait qu'aujourd'hui ben on peut se retrouver dans des situations où en prenant des agences qui ne respectent pas les critères, qui ne connaissent pas les principes humanitaires, qui n'ont pas le personnel, qui n'ont pas la compétence, cela peut augmenter le risque de faire face à des cas de mauvaise gestion ou de ne pas remplir le cahier de charges qui est assigné.
Quelle est l'importance de la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire? Nous en parlons dans Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces thèmes, n'hésitez pas à nous appeler au numéro 081-890-63-94.
Radio Okapi.
À Kananga.
Okapi.
Sur 93 FM.
Okapi.
Nous allons cette fois-ci au standard, hein, donner la parole aux deux premiers auditeurs qui sont au standard. Nous allons commencer par Madame Claudia. Elle appelle de Colouésie. Madame Claudia, bonjour. Madame Claudia, bonjour. Bon, le temps que la réalisation puisse faire son travail, relancer Madame Claudia. Dites-nous, Clémence, est-ce qu'il est prévu une série d'activités par rapport à cette commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire?
Cette année, je pense qu'on se focalise beaucoup sur la communication et la sensibilisation, voilà, sur l'aide humanitaire, sur les acteurs de l'aide humanitaire et l'émission que nous avons aujourd'hui en est un exemple. Et j'imagine qu'un certain nombre de nos collègues, que ce soit
à travers le pays,
font également une certaine sensibilisation à cette occasion-là.
Mmh. Yvan ?
Exactement, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin de mieux faire connaître et comprendre le travail humanitaire. Donc aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa et comme Clémence le disait, à travers les différentes provinces, les collègues vont c'est une journée en fait qui veut que tout le monde se l'approprie en fait. Tant du côté du gouvernement que du côté des ONG nationales que autres. Donc c'est vraiment une journée qui n'est pas la propriété de OCHA ou bien d'une agence en particulier. C'est vraiment la journée de tous les humanitaires. Donc l'idée c'est de permettre à chacun de marquer l'événement comme il entend dans la mesure du possible.
Parce qu'il faut le reconnaître aussi, vous faites un métier difficile, Clémence. Sur terrain, parfois, vous sentez ces sentiments de l'animosité. Parfois, quand vous allez assister certaines communautés, parfois c'est compliqué, hein.
Tout à fait. Après, c'est vrai que les organisations aussi travaillent de façon très proche avec les communautés, et c'est notre première porte d'entrée, notre première base de sécurité, on va dire, c'est la relation privilégiée qu'on peut avoir avec les communautés dans lesquelles on opère. Et oui, je pense qu'il y a de la frustration parce que la crise dure, parce qu'il y a de l'insécurité qui perdure, parce qu'il y a des besoins auxquels on ne peut pas répondre. Et des besoins qui ne sont pas nécessairement liés à de la crise, mais à de la pauvreté chronique et à un manque d'accès à des infrastructures. Tout cela, on le remarque et on le sait, mais ça n'est pas nécessairement du ressort des organisations de l'humanitaire, c'est-à-dire de la réponse d'urgence. Il y a beaucoup de ces besoins-là qui sont dus à des causes structurelles, et donc du coup, il y a besoin d'une réponse de développement de plus long terme sur les causes vraiment profondes de ces besoins-là, et en travail avec les autorités de pouvoir mettre en place des mesures pour répondre. Et donc du coup, voilà, les humanitaires ne sont pas là pour tout faire, au contraire, on est vraiment sur le niveau le plus basique de sauver des vies. Et après, tout ce qui est des besoins sur du plus long terme, on essaye de travailler avec nos partenaires et nos collègues qui sont experts, j'en vais dire, sur ces questions de plus long terme, et avec les autorités congolaises pour prendre le relais et travailler sur du... Voilà, sur
de la durée. En même temps aussi, il y a des urgences qui surviennent. Nous venons de sortir du dernier conflit à l'est du pays, partie orientale, en Ituri, tout ça, il faut gérer. Et parfois, c'est compliqué de suivre tous les mouvements de la situation sur terrain.
Oui, alors, je pense que Aujourd'hui, ce dont Clémence fait allusion aussi, c'est en fait, c'est effectivement que il faut voir les acteurs humanitaires en fait comme un maillon d'une chaîne. Si on considère que le développement socio-économique est la finalité de tout ça, nous sommes un premier maillon, un maillon important, mais un maillon qui déjà permet de garder les gens en vie et les maintenir, susciter de l'espoir et les maintenir en vie. Aujourd'hui, il y a tout un travail qui est en train d'être fait par le système des Nations Unies, évidemment avec le gouvernement, ce qu'on appelle dans le jargon un peu onusien, le nexus, qui est en fait ce lien qu'il faut établir entre la réponse d'urgence, consolider la paix, sécuriser les populations, afin de pouvoir rentrer dans du développement à plus long terme. Donc voilà, nous en tant qu'humanitaires, on se positionne dans la première étape de l'urgence, et comme Clément disait, il y a tout un autre travail qui doit être fait par d'autres acteurs autres que nous.
On me signale que Madame Claudia Colosi, qui a appelé de Colosi en ligne. Madame Claudia, bonjour.
Bonjour Monsieur Tati. Bonjour aux invités.
Bienvenue dans Okapi Service. Oui. Quelle est votre question ou votre suggestion?
Oui. Et je voulais savoir si les organismes d'aide humanitaire travaille en partenariat avec d'autres organismes pour prévenir certaines catastrophes, par exemple s'agissant de la crise alimentaire, parce que je vois présentement dans notre pays, il y a des millions de personnes qui sont en situation d'urgence alimentaire. Est-ce qu'il faut seulement attendre qu'ils soient en situation d'urgence pour chercher à guérir, ou si ils travaillent aussi pour prévenir? Oui, une autre préoccupation. En fait, quand on parle d'aide humanitaire, je vois qu'on a toujours tendance à faire allusion aux organismes internationaux. Et dans notre pays, qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes, sans compter sur les ONG internationaux? Par exemple, il y a eu récemment un séisme de Mirangogo à l'Est, c'était à Bukavu, c'est ça. En fait, plusieurs mois plus tard, même plusieurs années, les sinistrés vivaient toujours dans des conditions infrahumaines, des conditions non décentes. Pourquoi? C'est un peu ça ma préoccupation. Merci.
Merci beaucoup, Madame Claudia. Nous rappelons que vous intervenez depuis Colosi. Clémence, comment répondez-vous à Madame Claudia?
Oui, sur la question de la prévention des crises, bien évidemment, ça fait... C'est une partie inhérente. Alors oui, il y a une réponse d'urgence, mais en général, quand on réagit à de l'urgence, on a aussi la perspective d'avoir un certain impact sur du plus long terme. Donc du coup, c'est vrai qu'on essaye de mettre en œuvre, de réfléchir sur comment structurer la réponse de façon à ce qu'elle soit pérenne et à ce que... on crée de la résilience pour que dans les prochaines crises, l'impact soit moindre. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, comme je le disais, on travaille beaucoup avec nos partenaires de l'aide au développement, qui sont experts justement sur aussi le travail sur la structuration pour la prévention aussi des catastrophes, etc. Peut-être pour la deuxième réponse.
Oui, mais je pense que peut-être Madame Claudia, c'est ça, a peut-être raté le début de l'émission.
Ouais, ouais.
Je pense qu'on a longuement parlé ici de la présence et du travail que fait les ONG locales congolaises dans la réponse humanitaire, y compris aussi des autorités du gouvernement à travers le ministère des Nations humanitaires. Donc voilà, je pense qu'effectivement, comme on l'a dit, il y a une tendance à croire que tout est fait par les Nations Unies et les ONG internationales, mais je pense que c'est peut-être plutôt le contraire en fait. Beaucoup est fait par les ONG locales, nationales. Souvent, il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais entendu parler, mais effectivement, quand vous allez sur le terrain, elles sont présentes, elles sont actives.
Un complément d'infos.
Oui, peut-être rappeler que les organismes internationaux sont là à la demande des autorités congolaises, et et on travaille avec
en partenariat, en collaboration.
Et donc il y a aussi des situations où l'État congolais est en mesure de répondre et veut assumer pleinement sa responsabilité dans la réponse, et auquel cas voilà, c'est aussi notre place que de dire, bon ben, étant donné que l'État est présent et a une capacité de réponse, nous, humanitaires, nous allons plutôt nous focaliser sur des zones où on a un besoin d'agissement. Donc du coup, on revient sur la question de la priorisation. Voilà.
Merci beaucoup. Nous retournons au standard. Il y a d'autres auditeurs qui sont déjà en ligne. Nous allons donner la parole cette fois-ci à Platini Mbombo. Il intervient depuis la ville de Mbandaka. Platini, bonjour.
Bonjour, je salue les deux invités.
Allez droit au but, quelle est la question que vous avez à poser à nos invités?
Bon, merci, je pense que vous avez dit que j'allais tout droit au but. Directement, je pars au but pour demander aux invités. Alors, j'ai bien suivi ce que madame a dit tout à l'heure, surtout sur le plan de l'appui, surtout dans les ONG locaux, sur le plan des actions humanitaires, mais ici je parle, avant de poser la question, je parle ici de la vue de Mbandaka, parce qu'ici nous constatons qu'il y a beaucoup des ONG locales qui appuient surtout les personnes vulnérables, etc., tout ça, mais appuient même les personnes handicapées, etc. Mais si je reviens à ce que madame a dit, mais ces ONG souffrent, parce qu'il y a même certaines ONG dit que depuis qu'on a commencé, on n'a jamais réussi même erreur pour le financement, pour l'aide d'humanité. C'est une question que j'ai déjà racontée sur le terrain à travers nos ONG locales. Mais c'est ce que moi je vais poser à l'invité, si il est là, il y a madame qui est là aussi avec vous, la première est de savoir pourquoi dans le financement des ONG, on tient toujours compte sur le parti Est des pays. Or, le pays, le Congo, c'est le département Est. Il est sur l'Ouest, comme ici, c'est nous, l'Équateur. Il n'y a pas de bon financement. Si on finance peu, mais pour le faire le suivi, nous sommes les premiers. Mais le parti Est, là, il y a beaucoup de ONG locales. On finance sur le plan de l'aide humanitaire, etc. Et la deuxième question, que je peux demander à l'invité qui est en studio, je ne sais pas, c'est pour que. Ils ont commencé à financer les ONG locales. Qu'est-ce qu'ils ont bénéficié? Je peux avoir une somme, je veux connaître les cartographies, le fil d'idée, depuis qu'on a commencé là, les retours, les retombées. Est-ce que ça augmente dans les bons ou ça remet dans les mal? Voilà ce que je veux avoir l'idée autour de ça.
Vous voulez dire les retombées du côté des actions menées en faveur des communautés locales?
Oui. Donc ça augmente dans les bons comme les résultats sur le terrain. Ou bien ça rabaisse les résultats sur le terrain.
C'est bien noté, Platini. Merci d'avoir intervenu de Mbandaka. Cette fois-ci, allons à Bandundouville pour donner la parole à Malonga. Malonga, bonjour.
Oui, bonjour Tati. Et bonjour à nos invités et à tous ceux qui nous suivent là-bas.
Allez droit au but.
Ok, merci beaucoup. Je félicite d'abord cette journée de la commémoration de l'aide humanitaire. Mais conformément avec l'idée et l'essence de concept, c'est une aide humanitaire. Mais moi, ce qui me fait regretter, je vois que l'aide s'oriente seulement à une catégorie des gens. Donc là où il y a la guerre seulement, c'est pas là où on aide. Mais là où il y a aussi les vulnérables, comme maman vient de dire là, à la communauté locale, ici chez nous, à Bandundouville, il y avait l'emportement des toitures de plusieurs, ici, 500 maisons et 1000 maisons. On nous avait promis que notre ministère des Affaires sociales va nous assister, et on a eu cette information qu'il y avait un acte quelconque comme ça. Mais ça n'a pas été vraiment arrivé à la destination. C'est ce que je vais demander les invités qui sont là. C'est une aide humanitaire. Donc, c'est aide.
Et l'humanitaire ne peut pas concerner uniquement les zones en conflit. Ok, c'est bon. C'est noté, Malonga. Nos invités auront le temps de vous répondre. Allons cette fois-ci à Bounia pour donner la parole à Monsieur Kalabia. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Tati. Bonjour à nos invités sur le plateau de la radio Okapi.
Quelles sont les questions que vous voulez poser à nos invités?
Merci. La commémoration de l'aide humanitaire est plus importante Oh, tant que la vie nécessite en tout cas une assistance, monsieur Tati. Oui, néanmoins, les questions qui me passent à la tête, monsieur Tati, vous savez que nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo.
En Ituri précisément,
Oui, en Ituri précisément, à Bunia. Mais c'est vrai, mais quand je vois les ONG, je vois UN, je vois donc toutes ces grandes organisations humanitaires, oui, je ne sais pas si leur siège, c'est leur siège à Goma, je pense que leur siège est à Goma, et puis tout ce qui se passe, est-ce que toutes ces ONG-là, est-ce que aussi ils ne sont pas parfois impliqués dans des conflits qui se passent ici à l'Est? Ça, c'est la première question. La deuxième question, pour que ces ONG installent, ça installe à travers le pays, je ne sais pas, est-ce que lorsque les conflits termineront ici à l'Est ou sur toute l'étendue de la République, toutes ces organisations-là se retourneront là où ils étaient venus? La troisième question, M. Tati, quand je compare les organisations, par exemple, les Français, par exemple, les organismes français et les organismes anglais, je vois qu'il y a, en tout cas, il y a une différence. Parce que les Français, ils ont un comportement un peu, permettez-moi le terme, ils ont en tout cas un comportement de négation. Mais quand nous voyons les Anglais, en tout cas, ils viennent avec un objectif précis et ils aident, en tout cas, on aide les gens et quand même tout le monde se retrouve. Je me souviens des cas qui s'est passé en Djougou.
Allez-y rapidement, il y a d'autres auditeurs qui attendent, Justin.
Oui, je me souviens des cas qui s'est passé en Djougou, monsieur Tati. Et puis, il y a en tout cas une organisation anglaise qui était venue, et puis ça a assisté en tout cas la population. Mais quand l'autre organisation française, c'est comme s'ils ont encore un problème de matériel. Alors, ma question est de savoir, c'est quelle organisation qui peut être meilleure à amener en tout cas la paix aussi, parce que nous voyons que ces organisations aussi sont aussi impliquées dans des atrocités.
Merci beaucoup, Justin. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Bounia en Ituri. Clémence, nous allons commencer par Platini, la question de Platini qui dit que vos actions sont fortement concentrées à l'est du pays, alors qu'à Mbandaka, il y a aussi des ONG locales qui travaillent pour les humanitaires mais qui n'ont pas de financement. Comment répondez-vous à Platini?
Je réponds qu'il a raison, tout à fait. Il y a tout à fait des besoins à Mbandaka et comme dans partout dans le reste du pays.
Parce que Malonga aussi a évoqué les cas des toitures qui ont été emportées par les vents et plus de 100 ménages, tout ça, voilà.
Exactement. La réalité, elle est que le Congo est très
vaste,
grand, est très vaste. Et
il y a des problèmes partout.
Voilà, les besoins sont très variés et énormes.
Voilà.
Et comme je disais, je pense au tout début de l'émission, il y a quelque chose qui ressort d'une pauvreté ou d'une difficulté d'accès à des infrastructures de base, qui sont des choses qui sont structurelles, qui ne sont pas liées à une crise. Les humanitaires, parce que on n'a pas non plus une capacité
immense,
qu'on n'a pas non plus des ressources immenses, on est amené à cibler et à prioriser et à se concentrer. Et la réalité, c'est que quand on est face à une situation de conflit ou de déplacement massif de population, les besoins sont beaucoup plus grands, que ce soit pour les personnes déplacées, mais également pour les populations qui accueillent ces personnes déplacées. Et en termes, c'est bête d'en venir là, mais en termes de chiffres, en termes de nombre de personnes, on va aller là où il y a le plus grand nombre de besoins, et c'est là où se fait la décision. Après, il y a également d'autres parties du pays où les autorités nationales d'autres acteurs qui ne sont pas nécessairement
les confessions religieuses, par exemple, qui assistent les communautés locales.
Tout à fait. Des acteurs du développement vont avoir des réponses. Et alors là, on est sur une réponse qui est un peu différente. On en fait un peu une différenciation, bien que c'est une réponse à un besoin. Voilà.
Justin a posé presque le même problème, mais il a dit aussi les ONG internationales aussi dans la partie est du pays, parfois ils sont dans des actes qui sont parfois illicites.
Oui, je pense que bon, on n'a pas.
Et vous voulez savoir aussi si un jour les ONG locales, internationales aussi finiront par partir, par quitter le pays.
Mais c'est ce que Clémence disait en début d'émission, c'est-à-dire que notre présence au Congo, elle est limitée. Il y a aucune ONG, aucune personne qui a envie de rester au Congo indéfiniment.
Je reviens vers vous, hein. Je donne la parole à l'auditeur qui vient d'entrer au standard. Mm-hmm. Il s'agit de Charles Kisimba, il a Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Tati, bonjour aux invités.
Allez droit au but. Quelle est la question que vous avez à poser à nos invités? Ou quelles sont les questions que vous voulez poser à nos invités?
Oui, il y a quelques jours, Monsieur Tati, on nous a appris que Otcha venait de suspendre son aide dans notre pays. Alors, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont revenus sur leur décision ou bien c'est comment que ça se passe? Sinon, on a été appris de ça. Alors, autre chose pour terminer. Est-ce que après avoir opéré leur assistance, il n'y a pas des notions qui sont inculquées par Otcha à ce qui concerne l'autoprise en charge? Est-ce que nous allons demeurer toujours des perpétuels assistés ou bien c'est comment? Et par rapport aussi à la voisine qui est UNICEF, il n'y a pas une corrélation avec UNICEF à ce qui concerne les enfants vulnérables, parce que nous constatons que les taux sont en train d'augmenter du jour au jour. Et nous voyons que celle l'UNICEF n'est pas à mesure d'assister à tous ces enfants-là, enfants de la rue et consorts. Est-ce que Otcha aussi n'a pas cette idée-là, ne se fâche pas aussi sur cette question-là? Voilà un peu ce qui a préoccupé mon attention aujourd'hui.
Merci beaucoup, Charles. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi. Donnons la parole cette fois-ci à Laurent. Il est à Kananga. Bonjour. J'espère que c'est le dernier auditeur pour cette tranche. Bonjour.
Bonjour Tati Mabouko, bonjour aux invités de la Radio Kapi. J'ai des préoccupations importantes à poser aux invités.
Rapidement.
Je vais demander, dans une zone où il n'y a pas une urgence humanitaire, est-ce que c'est nécessaire qu'un organisme humanitaire et international œuvre toujours? Avec ces préoccupations, les invités veulent faire la différence entre l'aide humanitaire et un don. Vraiment, j'ai une confusion très passée. Merci beaucoup, bonne journée.
Je vous en prie, je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Kananga, Laurent. Yvon, comment répondez-vous à chaud, hein, le Charles de Lubumbashi qui a parlé de la fermeture d'Otcha, je ne sais où?
Oui, je pense que, bonjour Charles, je pense que vous avez une information erronée. Voilà, Otcha n'a suspendu aucune opération dans le pays. Voilà, donc je pense que pour cette question...
Je voulais aussi savoir, est-ce que les communautés locales là vont rester des perpétuels assistés, et est-ce qu'il n'y a pas moyen de, quand vous allez sur terrain pour les assister, de les rendre également autonomes et l'appropriation des compétences qui vous amenez sur terrain?
Mais ça fait partie du travail que nous faisons. Je pense qu'il y a beaucoup de renforcement de capacité qui est fait auprès de non seulement auprès des organisations, mais même auprès même des personnes qui reçoivent de l'aide, afin que dans un futur on espère proche, et puissent voilà retrouver leurs capacités, leurs moyens de ressources. Donc je pense que c'est une question qui c'est une réponse qui est valable pour beaucoup de questions qui ont été posées ces dernières minutes. La présence humanitaire est une présence
ponctuelle, temporaire.
Voilà, très très spécifique,
limitée dans le temps.
Et on est appelé à partir. Pour compléter un peu ce que Clémence disait par rapport à je crois à Mbandaka, c'est exactement ce qu'aujourd'hui dans une ville comme Mbandaka, il y a en tout cas quasiment très peu d'acteurs humanitaires, parce qu'à un moment donné on a estimé que Mbandaka n'était plus, selon les critères que
nous avons, entre guillemets, une zone rouge où il y a beaucoup de problèmes,
une crise humanitaire, et que maintenant on pouvait peut-être passer dans des actions qui
des
sont
développements, développements qui sont plus à long terme. Voilà.
Exactement. Donc il ne faut pas, j'allais dire de façon un peu terre à terre, il ne faut pas souhaiter qu'il y ait des ONG humanitaires dans votre province, hein. C'est, notre absence est souvent signe que on se dit, ah, ce territoire,
la situation s'est nettement améliorée
et qu'on peut peut-être passer à autre chose qui est beaucoup plus durable, beaucoup plus sain pour les familles.
Oui, à l'auditeur aussi, Laurent Mignon de Kananga, qui a posé la question de savoir si les actions que vous menez en faveur des communautés locales dans le Kasaï, est-ce qu'il y a aussi des projets de développement que vous menez sur place?
Oui, il y a des le Kasaï est un peu comme le Kalemie aujourd'hui, en fait, sont aujourd'hui deux provinces, deux régions qui sont en fait des régions pilotes pour ce que je disais tout à l'heure, en fait, le Nexus. Donc aujourd'hui, on estime que le Kasaï et la zone du Tanganyika ne sont plus en phase d'urgence de façon globale. Il y a évidemment toujours des poches de besoins, mais on estime que c'est des zones qui sont aujourd'hui peut-être prêtes à passer cette étape de l'humanitaire pour passer à des étapes de développement. Donc oui, parce que je pense que la question c'est de savoir est-ce qu'il y a un besoin d'agence humanitaire dans une région s'il y a plus de crise humanitaire. La réponse simple serait non. Après, effectivement, bon, il y a certaines spécificités. Voilà.
Oui, Madame Clémence, en une minute, parce qu'on est déjà à la fin de notre émission, on est en train de célébrer la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Quel message que vous avez à lancer à vos collègues qui sont à travers le pays? En quelques mots.
Aux collègues qui sont dans le pays, bon courage et bonne continuation. Non, voilà, l'engagement de tout un chacun, que ce soit des communautés ou des collègues sur le terrain, est extrêmement important. Et on le voit, il est demandé parce qu'il y a beaucoup de besoins. Et donc le travail qui est fait est un travail exceptionnel. Et c'est important de mieux le faire connaître et de mieux expliquer les raisons et les principes qui guident notre action, de façon à pouvoir s'assurer de la bonne compréhension et du soutien de la population.
Monsieur Yvon, je vous soumets au même exercice, les messages à lancer aux différents collègues qui travaillent sur terrain. On est en train de célébrer la Journée mondiale de l'aide humanitaire.
Ben moi je soutiens tout ce que Clémence a dit, puis je dirais voilà, moi j'inviterais beaucoup plus de Congolais à s'y investir. Parce que en in fine, j'ai envie de dire c'est leur pays, ce sont leur famille, c'est un métier qui procure beaucoup de plaisir. Oui, on n'a pas des difficultés, mais je pense qu'au-delà des difficultés, c'est un métier qui est humain. On est au contact des gens, on perçoit les choses différemment. Et je pense que on sera encore beaucoup plus, disons, efficace si on a encore beaucoup plus d'implication de la population congolaise de façon générale.
Sincèrement, merci à vous deux d'avoir été avec nous dans Capi Service. Espérons qu'on aura l'occasion d'autres occasions pour parler des activités de l'humanitaire à travers les pays. Merci beaucoup à vous, Yvan. Merci à vous, Clémence.
Merci beaucoup.
À la prochaine occasion. Merci beaucoup.